Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Ingrid Carré, qui a vu son chien d'assistance blessé lors d'un délit de fuite, est avec nous en studio aujourd'hui, accompagnée du psychologue de la Fondation Mira, Noël Lechampagne. Donc, on va se poser la question de ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là. Rappelons que pour Ingrid Carré, c'est son autonomie qui a été blessée. En chronique, aujourd'hui, Aube Savard nous parle justement de comment pallier son handicap en voyage et Laurent Trépanier-Capistran, notre chroniqueur juridique, nous donne des nouvelles de la loi canadienne sur l'accessibilité. On se réjouit aussi ensemble de la solution en logement, défi, logis, Lanaudière et en ouverture de cette émission. On salue le Nouveau-Brunswick et sa Semaine nationale de la sensibilisation aux personnes en situation de handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Du 27 mai au 3 juin, le Nouveau-Brunswick lance sa semaine pour les personnes en situation de handicap. Faut être là. Donc, c'est pas seulement un appel, c'est aussi le thème de cette semaine. Et avec nous, Rachel Thiboutou, navigatrice au service d'information au Conseil du Premier ministre sur les conditions des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Rachel Thiboutou. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Ah ah!
Voilà. Alors, écoutez, ça sera pas bien long. Quelques problèmes techniques, on vous revient dans quelques instants. Oui, vous êtes tout... Tout le monde est là, mon Dieu. Alors, écoutez, je suis content que les communications se fassent, puisque, à l'habitude, c'est assez facile entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Bon, bonjour, Madame Thiboutou. Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Ben oui, ça va bien. Écoutez, on a envie de vous entendre parler de « Faut être là », la semaine qui nous permet de sensibiliser aux droits des personnes en situation de handicap. Alors, avant tout, Madame Thiboutou, quelle est la situation des personnes en situation de handicap au Nouveau-Brunswick?
Well, présentement, la situation est très, très bonne parce qu'ici, au Nouveau-Brunswick, on favorise l'inclusion des personnes. Donc,
ah oui.
Nous avons plusieurs programmes en place qui, vraiment, on a plus de 120 organismes à but non lucratif qui aident les personnes handicapées vraiment à s'intégrer au niveau du travail, des milieux scolaires et aussi au niveau des services de santé.
Et donc, tous ces indicateurs-là, c'est-à-dire le niveau de scolarisation, l'accès au travail, progressent depuis les dernières années?
Oui, et surtout depuis que le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées a été créé, on a vraiment un petit peu plus de on peut vraiment rejoindre un plus grand bassin de personnes qui feraient vraiment les sensibiliser à cette situation-là. Et spécialement la semaine prochaine, nous avons la semaine de sensibilisation.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on est avec vous. Donc, c'est du 27 mai au 3 juin. Donc, quelles sont les principales activités de cette semaine, Madame Thiboutou?
Bien, premièrement, on a la journée de lancement qui se fait à Fredericton. C'est la société Mira qui est l'hôte. Donc, c'est vraiment une très grosse cérémonie. Donc, on procède au lancement. Et ensuite, nous avons le déjeuner des hauts fonctionnaires.
Okay.
Le déjeuner des hauts fonctionnaires, c'est très populaire au niveau de la population, car la population peut s'asseoir avec les ministres, avec les présidents de compagnies, les gens des organismes et poser des questions.
Ah oui?
Et vraiment, les gens s'assoient à la même table.
Et tout le monde s'écoute.
Et tout le monde s'écoute, tout le monde se parle. Et il y a même aussi des choses qui se passent cette journée-là et qui se mettent en place pour vraiment aider à la situation des personnes handicapées.
Donc, c'est comme un lieu de, j'oserais dire, de promotion des droits là, en direct dès le début de la semaine.
C'est en plein ça.
Avec
c'est
les décideurs.
Direct. C'est en plein ça. Puis en plus, on a plus de 20 000 participants qui participent à l'événement Marche et roule.
Oui.
Donc, ça, c'est très, très gros. C'est au niveau des écoles primaires, des écoles secondaires, au niveau des entreprises. Alors, on se rassemble et on fait vraiment la publicité. OK, regardez, ici, on a des gens avec des personnes handicapées qui travaillent pour nous. On en a au sein des écoles, puis on est là pour les supporter.
OK. Donc, ces deux événements majeurs, évidemment, pour les gens qui recherchent souvent sur votre semaine, marchent et roulent, c'est un événement assez un événement signature assez connu. Vous dites que les municipalités aussi sont invitées à s'engager dans cette semaine. C'est pas juste dans la rencontre en tout début de semaine. Là, il y a d'autres moments où les municipalités peuvent participer précisément cette semaine, c'est ça?
C'est ça. Il y a plusieurs municipalités qui participent, entre autres, à la marche et roule, parce que c'est pas seulement une journée. Mm-hmm. Il y a tous les jours qu'il y a des marches et roules.
Ah, oui.
Un peu partout au Nouveau-Brunswick. Donc, on peut voir, par exemple, à Bathurst, le lundi, bon, on est à Bathurst, mais le mardi, par exemple, ça peut être un petit peu plus bas, ça peut être à Shediac. Mm-hmm. Donc, à tous les jours, il y a quelque chose qui se passe.
Ben voilà.
Dans la province. Donc, les municipalités sont vraiment engagées durant cette semaine-là.
Est-ce que vous auriez envie de nous pointer quelques activités qui vaudraient particulièrement la peine dans une ou l'autre de ces municipalités, Mme Thibodeau?
Oui, entre autres, la plus grosse, c'est vraiment à Moncton, le 28 mai.
Mm-hmm.
Okay, c'est à 2 heures de l'après-midi et c'est vraiment le lancement. Alors, on retrouve généralement à peu près 1 millier de personnes qui se présentent là, parce qu'évidemment, il y a plusieurs, il y a des artistes, c'est vraiment un gros party, comme on dit, là.
Oui.
Et on lance la semaine. Et ensuite, on a le 30 mai, qui est le mardi, qui est vraiment très populaire. C'est le déjeuner des hauts fonctionnaires à l'Assemblée législative.
Ah, à l'Assemblée même, donc dans votre enceinte, j'oserais dire, démocratique, il y a rencontre de tout ce monde-là.
C'est ça. Alors, si on commence par là, et tout le monde se déplace quelques coins de rue à l'hôtel Le Delta.
Okay.
Et là, on sert le déjeuner, on se rencontre, on parle.
Ouais.
Le premier ministre va être présent. Alors, là, vraiment une très grosse discussion. Et ça commence à 8 heures le matin. Ça se termine généralement vers midi, 1 heure.
Donc, si
alors,
je comprends bien,
plus gros. Oui.
Si je comprends bien, cette semaine-là a vraiment comme fonction de changer les attitudes, là, vraiment de faire une grande sensibilisation et de réunir tous les acteurs de la société nouveau-brunswickoise. C'est ça?
C'est en plein ça. Et on profite aussi de cette semaine-là pour vraiment sortir dans les médias mm-hmm. sociaux. Alors, nous, on a Facebook, Twitter, on a des concours aussi pour engager les gens et vraiment les dire, venez nous voir, allez rencontrer ces organismes-là. On existe. Alors, on a plusieurs activités attachées aussi. Par exemple, la société Autisme Connexion, eux, ils font, par exemple, une marche aussi.
Mm-hmm.
Alors, ils ont aussi des choses qui se passent là. Alors, c'est vraiment la semaine, on se montre au public,
ouais.
On est là, et ça a un impact aussi durant toute l'année.
Bon, contente d'entendre ça. Écoutez, Mme Rachel Thibodeau, j'aimerais rediriger les gens vers l'adresse courriel, pardon, le site web de votre événement, c'est-à-dire gnb.ca/conseil, c'est bien ça?
C'est en plein ça.
Donc, c'est tout simple, on retrouve là le calendrier des activités ainsi que l'historique, les principes de la semaine des personnes en situation de handicap du Nouveau-Brunswick. Et si on veut faire partie d'une activité, j'imagine que toutes les coordonnées y sont présentes aussi.
C'est en plein ça. On peut nous rejoindre aussi sur Facebook, sur Twitter.
Uh-huh.
Et les concours, ce n'est pas... sont pas seulement limités au Nouveau-Brunswick. Alors, si les gens veulent participer, ils sont bienvenus, bien sûr, de participer au concours.
Donc, partout au Canada, on peut participer à votre semaine qui rallie à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. C'est ce que je comprends.
C'est en plein ça.
Merci, Rachel Thibodeau. Rappelons que vous êtes navigatrice au service d'information, au conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup.
Merci. Bien, je vous souhaite une excellente journée.
Bonne semaine à vous-même.
OK, au revoir.
Ça me fait peur, tout ce bonheur. Le bonheur, c'est pas bon pour le reste. Ça empêche la recherche, ça pousse à la routine. Ça fournit l'endorphine qui endort le veilleur. Ça y est, je repars. Je pars parce que j'ai besoin de voir plus loin. Toi, bien sûr, tu dis reste. Mais je pars et je suis la branche sur laquelle je suis assis. Je déteste être assis, je déteste. Ce n'est pas qu'elle n'est pas belle, notre histoire. Ni qu'elle n'est pas sincère, ni qu'il n'y ait des joies réelles. Mais c'est toujours la même, le monde est si vaste et nous, on s'enterre. On est devenus des plantes en pot, des fleurs en plastique. On peut nous donner des tonnes d'eau et des wagons d'antibiotiques. On sera jamais que des plantes en pot, des papillons sans ailes, des ex-rebelles qui payent des impôts. Ça y est, je repars.
comment pallier son handicap en voyage? Se renseigner et s'adapter, nous dit Aube Savard, notre chroniqueuse destination, qui est avec nous. Bonjour, Aube.
Bonjour.
Alors, Aube, lors de notre chronique destination du mois dernier, vous avez nommé quelques destinations réputées pour leur accessibilité et vous souhaitez proposer aux gens un guide qui vous donnera peut-être plusieurs informations afin de bien planifier votre voyage. Alors, Aube, je vous écoute. On suit le guide.
Oui, en fait, il y a un guide de Lonely Planet qui est entièrement gratuit et qu'on peut télécharger sur le site web de Lonely Planet.
Ça, on aime ça.
Et ce guide-là, ben oui, on aime ça. ça s'appelle Accessible Travel Online Resources. Donc, ça dit ce que ça dit. C'est un recueil de ressources qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a des agences de voyage spécialisées, des voyagistes, il y a des liens vers des blogs qui sont tenus par d'autres voyageurs avec déficience. Ça peut être une très bonne source de renseignements.
Ben oui.
Il y a également des répertoires de lieux et d'hébergements accessibles. Il y a même des spécialistes de sport adaptés si on souhaite faire un sport en voyage ou faire un voyage d'aventure.
Et ça complète c'est... bien le voyage. En effet, là, quand on peut trouver du sport adapté, ça, c'est assez rare d'ailleurs, mais c'est heureux qu'on sache là où aller.
Exactement. Et puis tout ça, c'est classé par pays. Donc, c'est très facile de s'y retrouver en fonction de nos envies de voyage.
Bien. Et donc, pour pallier son handicap en voyage, on doit déployer beaucoup de choses, surtout si les endroits sont moins, disons, universellement accessibles. Vous suggérez d'utiliser des aides à la mobilité ou d'en prendre une qui vous donnera davantage de flexibilité. Donc, c'est un long préambule, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je vais faire une petite mise en situation. Et
allez-y.
Pour les besoins de la cause, je vous fais vieillir un peu, Benoît.
Ah, mais ça s'approche doucement. Ça s'approche doucement dans mon cas.
Donc, vous êtes un baby boomer. Vous venez d'arriver à la retraite et vous souhaitez voyager, mais depuis quelques mois, vous avez mal aux genoux parce que vous faites de l'arthrose. Évidemment, l'arthrose, ça va avec l'âge bien souvent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Évidemment, vous êtes pas habitué d'avoir une déficience et dans votre tête, si votre forme n'est pas à 100%, vous vous dites que vous ne pourrez plus voyager.
Ouais.
Mais c'est faux. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans un magasin spécialisé comme André Vigée et louer, par exemple, un fauteuil roulant manuel, un petit scooter électrique. Il y en a qui sont pliables maintenant, c'est idéal pour le voyage. Si vous avez juste un tout petit peu mal, vous pouvez louer une canne ou même en acheter une. C'est pas très, très cher non plus.
Mais c'est important d'aller dans des magasins spécialisés ou à tout le moins dans les sections orthopédie de grandes pharmacies. C'est important de consulter les professionnels.
Oui, je crois que oui, parce qu'il y a sûrement des solutions auxquelles on ne pense pas d'emblée. Et donc, eux sont en mesure de bien nous conseiller à ce sujet-là.
Bien. Et donc, on pense à quoi quand on pense à des solutions ou des aides à la mobilité, Aube?
Bien, par exemple, si vous, vous êtes en fauteuil roulant et généralement, vous avez besoin d'un banc de douche quand vous prenez votre douche, est-ce que vous ne pourriez pas vous débrouiller, par exemple, avec un petit banc pliable?
Ah!
Songez-y, parce qu'il y a des petits bancs qui sont pliables et qui se glissent facilement dans une valise.
Oui, en effet.
Qui ne sont pas très gros.
Mais il ne faut pas avoir eu un très grand gain de poids là, avant. Il faut éviter de faire ça pour le voyage d'après Noël, par exemple. C'est ça,
c'est
hein?
C'est ça, exactement.
Okay. Bon. On suit bien, madame. Oui.
Voilà. Vous pouvez aussi... moi, par exemple, je me rappelle, j'ai rencontré un Français en voyage. C'était au Cambodge. Et lui voyageait avec son fauteuil roulant manuel. Ben, une fois qu'il arrivait dans une chambre d'hôtel, ben, il demandait simplement une chaise.
Ouais.
Bon, il faut savoir que qu'en Asie, généralement, les salles de bain n'ont pas de seuil. Donc, il n'y a pas y a rien à enjamber pour aller prendre sa douche.
Et ça devient un avantage pour beaucoup de gens.
Tout à fait.
Voilà.
Aller en Asie. Ça va être génial pour vous.
Effectivement. Non, mais les histoires de seuil, là, c'est tellement généralisé. À chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'on peut entrer là, est-ce qu'on peut entrer là? Y a-t-il un seuil trop grand, etc.? Mais là, bon, c'est réglé. C'est très bien. Merci, Aube, de nous le rappeler. Donc, avant de se quitter, Aube, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de pallier son handicap dont on n'aurait pas discuté puis qu'il faudrait peut-être connaître, à part la chaise normale ou le petit banc pliable, comme vous le dites?
En fait, si on se promène en fauteuil roulant manuel, mais qu'on vient fatigué assez rapidement, évidemment, quand on voyage, on peut passer notre journée à marcher, donc finalement à rouler, mm-hmm. donc à se pousser, donc ça peut être très fatigant. Il y a aussi une roue avant qu'on peut fixer au cadre rigide du fauteuil.
Ah oui.
Et ça permet en fait de se déplacer sur des terrains qui sont irréguliers, donc mm-hmm. c'est beaucoup moins fatigant.
Ouais.
Et cette roue-là peut venir avec une assistance électrique ou avec le modèle électrique complètement.
Bien, mais je vous recommande d'avoir vu le spécialiste en amont, hein, pas installer l'ajout technologique en voyage, parce que si ça complique ou ça compromet l'intégrité du fauteuil, là,
une fois
rendu en Asie ou où on veut, ça peut devenir compliqué.
Il faut faire le test avant, il faut bien savoir comment l'utiliser, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut aller vraiment dans les magasins spécialisés. Mm-hmm. C'est important pour avoir les bons conseils, savoir comment s'y prendre, etc. Mais ça offre beaucoup plus de flexibilité parce que on sait très bien que voyager avec un fauteuil motorisé, c'est très compliqué. Alors que si on a un fauteuil manuel plus la roue, ça nous offre plus de possibilités.
Bien. Ben écoutez, j'ai envie, avant qu'on se quitte, que vous nous laissez cette pensée de voyage que vous portez souvent, Aube Savant. Alors, on vous écoute.
En fait, il faut se souvenir que même si on ne peut pas tout voir ni tout visiter, on en voit quand même plus que si on était resté à la maison.
Ouais, c'est heureux d'entendre ça. Ici, on va savoir plus de vos pensées, mais aussi des trucs et astuces pour bien voyager. On peut visiter voyageramobilitéréduite.com, votre site web. Merci, Aube Savant.
Ça a fait plaisir encore une fois.
À bientôt.
À bientôt.
Le 28 mai, ce sera la Semaine nationale de l'accessibilité. C'est un choix judicieux pour sensibiliser et mettre à l'avant-plan les moyens qui rassemblent les citoyens, c'est-à-dire l'accessibilité aux bâtiments, aux communications, aux services. C'est d'ailleurs une première édition pour cette semaine, disons, fédérale ou canadienne de l'accessibilité. Et surtout, c'est le prélude à la loi sur l'accessibilité dont l'adoption est prévue l'an prochain. Donc, pour savoir où on est rendu dans ce processus vers cette loi, notre chroniqueur juridique, Laurent Trépanier-Capistran, juriste pour Juriste à domicile et membre de l'organisation Juriste progressiste, est avec nous. Bonjour, je suis au bord de dire maître, hein, Trépanier-Capistran.
Oui, va falloir attendre encore un peu, malheureusement, pour employer ce terme-là. Mais bonjour, je suis content d'être avec vous.
Bonjour. Donc, Laurent, juriste avec nous. Donc, rappelez-nous les grandes étapes que l'on a vécues en vue d'adopter une loi canadienne sur l'accessibilité.
Oui, tout à fait. Ben, il faut remonter pour ça en 2016, hein, et se rappeler l'important processus de consultation que le gouvernement fédéral a mis en place en prévision, en fait, de l'écriture de cette loi-là. On peut notamment penser au Forum jeunesse, hein, qui a eu lieu le 1er novembre 2016, donc Forum pan-canadien qui regroupe des jeunes de moins de 30 ans, donc pour se prononcer, pour donner des avis, pour discuter sur ce que devrait contenir cette loi-là. Donc, on a également eu des sondages par le web. Et quand je dis par le web, c'est soit écrit, soit audio, soit par vidéo. Hein, on pouvait transmettre ça. Qui ont été lancés à l'ensemble de la population et du moins au Québec, auxquels le milieu associatif a répondu assez en assez large mesure, en fait. Et puis, finalement, bien tout le processus de dépôt des mémoires qui s'adresse à tout le monde, mais qui intéresse particulièrement les organismes, mais qui était ouvert effectivement à l'ensemble des citoyens canadiens. Donc, cet énorme processus de consultation-là tire pratiquement à sa fin en ce moment. Et on entre dans une autre étape, une étape qui concerne davantage le gouvernement fédéral.
Donc, la balle est dans leur camp, disons.
Oui, davantage, effectivement.
Parce que, donc, il y a eu des mémoires, mais est-ce que vous avez une idée du niveau de participation, consultation? Est-ce que vous savez si ça a été couru?
Ça a été, comme je vous disais, ça a été assez couru par le milieu associatif. Il y a quand même quelques défauts qui doivent être notés dans le sondage, un langage, entre autres, très lourd, très très complexe. Donc ça a été décrié par certains groupes, par certains individus aussi. Mais somme toute, on a quand même répondu présent, parlons pour le Québec, mais on a quand même répondu présent là, à ce sondage.
Et comment vous résumez les grandes revendications québécoises d'abord?
Bon, avant de parler des revendications directement, il faut définitivement les mettre en lien avec la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées qu'on a au Québec. Mm-hmm. Donc, une loi qui date des années 70. Donc, on dirait qu'on regarde un petit peu l'initiative fédérale à travers cette lunette-là. Hein.
Ouais.
Et souvent, ce qu'on entend à propos de la loi québécoise, c'est qu'elle n'est pas contraignante, donc elle manque dedans. L'OPHQ n'a pas les moyens de faire respecter cette loi-là.
Et elle en a moins même des moyens, il faut le dire. Il n'y a plus de conseillers en accompagnement collectif. Là. Il n'y a que des accompagnements individuels en ce moment. Donc, on a même reculé là, par rapport à ce que désignait ou proposait la loi de jadis. Mais bon, donc, on fait un écho avec cette loi-là.
On fait un écho au sens où, c'est-à-dire qu'on veut voir des mesures contraignantes dans la loi fédérale.
Voilà.
Si j'ai l'impression, le consensus, en fait, qui se dégage au niveau du Québec.
Bien. Et à partir de là, est-ce qu'il y a quand même d'autres revendications québécoises qu'on pourrait identifier?
Tout à fait. Je vous dirais que celle-là elle est peut-être un petit peu moins fortement partagée ou du moins moins mise à l'avant-plan, mais il y a toute cette perspective-là où on veut voir cette loi fédérale-là être transversale. Et là, je m'explique. C'est-à-dire transversale, c'est qu'elle s'applique à l'ensemble des domaines, des champs d'activité du fédéral pour que finalement toutes les activités du fédéral, que ce soit dans n'importe quel domaine dans lequel il va jouer, que l'accessibilité soit présente dans ce domaine-là.
Bien, on entend ça. Est-ce que vous savez comment ça se joue partout au pays? Est-ce qu'il y a certaines revendications, notamment que cette loi-là soit plus contraignante, qui voyagent ou qui font consensus?
Bien, c'est un petit peu difficile de se prononcer, mais j'ai eu la chance d'être en fait au Forum Jeunesse donc en novembre 2016. Et puis, en effet, comme vous le soulignez, en fait, cet aspect-là contraignant semble faire assez consensus, je vous dirais. On peut toujours avoir des surprises. On n'est pas en contact vu la géographie du Canada, évidemment. Mais
oui, je dois avouer aussi qu'on ne sait pas à quel point les lobbies de grandes entreprises, etc., n'ont pas travaillé le ministère depuis ce temps-là. En tout cas, si je peux me permettre ce propos éditorial.
Tout à fait, tout à fait. Il faut le noter, hein, le milieu associatif et les personnes en situation de handicap ne sont pas les seuls acteurs qui vont intervenir dans
Bien
cette
sûr.
Voie-là parce que effectivement, vous faites bien de le souligner, en fait, il y a d'autres acteurs qui vont intervenir parce que, pour la simple et bonne raison, que ça risque d'avoir des conséquences importantes pour eux. Mm-hmm. Donc, ces acteurs-là interviennent. Donc, effectivement, on sait pas trop comment ça se passe et ça se passe, disons, dans un plus grand secret.
Ouais. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal que, d'un côté, on ait fait vraiment un travail très, très ouvert avec la société civile, les groupes de personnes handicapées, et de l'autre, disons, les représentants, les acteurs économiques n'affichent pas leur couleur publiquement?
Bien, en fait, il faut être transparent de notre côté aussi, c'est-à-dire que ces acteurs-là n'ont pas été invités directement à le faire aussi largement que les citoyens, et là je mets des guillemets « ordinaires », là, ont été à le faire.
Okay,
donc peut-être qu'il y a aussi cette question-là, mais effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose de peut-être plus large, non seulement dans une perspective de transparence, mais aussi dans une perspective démocratique, hein, pour que l'ensemble des points de vue puissent être exprimés et que ces points de vue-là puissent se répondre entre eux.
Ah, écoutez, vous êtes non seulement juriste, vous êtes aussi un démocrate. Merci, Laurent Trépanier-Capistran, pour cette chronique juridique. Et on continue de faire appel à vous dans l'avenir pour comprendre où en est notamment cette loi canadienne sur l'accessibilité. Merci, Laurent Trépanier-Capistran.
C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
Une jeune femme tétraplégique et son chien d'assistance, Mira, ont été victimes d'un délit de fuite à la fin avril dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Ce chien d'assistance, c'est pour Ingrid Carré l'équivalent de ses membres, de ses yeux pour l'aider, pour l'orienter. Et pour revenir sur cet incident, qui a de graves conséquences pour Ingrid, on la reçoit ainsi qu'une psychologue de la Fondation Mira pour bien comprendre cette situation et aussi les revendications d'Ingrid Carré, puisqu'il y en a. Pour l'instant, son chien Tia a des grandes difficultés, a besoin de soins et donc vous comprenez qu'il faut réagir assez rapidement. Donc avec nous, au téléphone, Noël Champagne, psychologue de la Fondation Mira. Bonjour, Monsieur Champagne, pardon. Bonjour.
Bonjour. Je suis un « il » et non un « elle ».
Oui, merci de le préciser. Donc, vous êtes toujours à l'écoute, ceci dit, comme psychologue.
Oui.
Voilà, OK, au moins. Et Ingrid Carré, qui a vu son chien Tia victime d'un accident, qui est avec nous aussi. Bonjour, Ingrid.
Bonjour.
Bonjour. J'aimerais d'abord parler de cette situation-là avec vous, Ingrid. Rappelez-nous, en cette fin avril, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
J'étais sur une piste cyclable qui était évidemment sur la rue, à côté de gauche trottoir. Mm-hmm. Et je roulais pour aller rejoindre une des stations de métro. Et là, il y a un automobiliste qui a roulé extrêmement vite.
Ouais.
Et qui était sur, qui était dans la piste cyclable et qui a fauché la patte de mon chien. Là.
Il était vraiment dans la piste cyclable en
ben,
fauchant?
Il dépassait, c'est-à-dire, il dépassait la piste cyclable.
Ah oui.
Il n'était pas, autrement dit, il était déjà en faute quand il roulait. Quand il m'a accroché,
fait que... Donc, et ce qui est navrant encore plus, c'est qu'il a, il a simplement quitté la scène de l'accident.
Oui, il m'a accroché, puis j'ai accroché mon chien, puis il est parti, il ne s'est même pas arrêté, là.
Bien. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans un langage un peu froid, là, considérant ce que vous avez vécu, un délit de fuite.
Exactement.
OK. Comment va Tia maintenant?
Elle va bien, là, de mieux en mieux. Sauf que, dû à l'impact de l'accident, il y a comme de l'eau, il y a comme un liquide inflammé qui est accumulé dans sa patte.
Mmh.
Fait que,
puis elle marche beaucoup, c'est... évidemment, comme on le sait. Hein?
Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'elle marche, là. C'est sûr qu'elle semble d'aller bien, mais sauf que je suis obligée de donner plus des soins spécifiques pour enlever le liquide s'est accumulé dans sa patte.
Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Parce que pour vous, c'est vraiment préoccupant. Là. C'est pour vous aider à demeurer autonome, continuer de sortir, que Tia est dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche jusqu'à maintenant pour qu'on voit effectivement les soins payés, prodigués, pour que ça soit fait?
Ben, c'est-à-dire que... Là, au début, c'était à mes frais.
Oui.
Et là, on est en démarche en ce moment pour demander une compensation financière auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Ah, oui. Et c'est important de le dire, normalement, quand il y a un délit de fuite et que ça arrive sur la route, c'est la SAC qui doit être responsable ou qui doit assurer les citoyens. C'est bien ça? C'est comme ça que vous le comprenez?
Oui, c'est ça. Fait qu'au début, moi, quand que j'avais appelé la SAC,
oui.
C'est sûr que bon, il y avait un petit peu un manque d'ouverture.
Et ah là, oui, à ce point-là? Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez appelé?
Ben, que premièrement, de un, j'ai passé à 6 personnes différentes.
Okay. Fait
que, puis la dernière personne, elle me dit que, on n'assure pas ça parce que on assure juste le matériel qui est brisé en tant que matériel. Exemple, si l'auto touche une clôture, ça c'est que. Ils m'ont dit textuellement qu'ils vont te financer. Mais quand c'est un chien, ben non, ils ne te financent pas. Sauf que par après, quand ils probablement dû, quand j'ai passé l'émission à M. Denis Lévesque,
oui.
Et là, peut-être ça leur a fait changer. Si je peux m'exprimer comme ça, leur fusil d'épaule.
Oui, en effet. Parce que c'est sûr que cette émission a une grande audience et qu'effectivement, ça a peut-être mis en lumière l'injustice que semblait commettre la SAC, puisque c'est pour vous un moyen de pallier au handicap. Là.
C'est sûr, c'est exactement ça. Un chien d'assistance, le mot le dit.
Oui.
Assistance, ça veut dire qu'il remplace ton handicap, ce que tu peux pas faire.
Voilà.
Exemple, moi, elle me rouvre les portes automatiques, elle ramasse mes choses tombées à terre.
Ouais.
Fait que là, moi, pendant ce temps-là, je suis obligée de demander à quelqu'un.
Ouais.
Et des fois, il n'y a pas toujours une personne de disponible.
Ben non, c'est évident. Et donc, vous avez vraiment besoin de ce chien-là pour mener les activités quotidiennes, là, tous les jours.
Exactement.
OK. On est aussi, Ingrid Carré, merci d'avoir rappelé ce qui s'est passé jusqu'ici. Ça ne doit pas être facile, d'ailleurs, parce qu'on doit vous le demander souvent ces temps-ci. Merci de le faire de nouveau. Noël Champagne, psychologue à la Fondation Mira, c'est quoi les recours d'Ingrid dans ce genre de situation?
Ben, c'est comme, d'après moi, là, c'est comme elle a fait.
Mm-hmm.
Il y a un recours à la SAC, de demander à la SAC, parce qu'on est dans un contexte très... C'est rare, là, ce qui est arrivé. Là.
Oui.
Moi, j'ai vu ça une autre fois dans mon histoire.
Ouais.
Quelqu'un avec un chien guide qui s'est fait taper son chien guide, s'est fait faucher son chien guide par une remorque, un camion remorque.
Ouais.
Mais il n'y a pas eu de délit de fuite et c'est l'assureur de la compagnie qui a payé les coûts du chien.
Mm-hmm.
Dans cette circonstance ici, Ingrid se déplace comme personne handicapée avec son chien sur la rue. On est on est dans un contexte de, un peu de pas un peu de
clairement
de criminel, si tu
oui.
C'est un délit de fuite là.
Oui.
Et on ça, puis là, d'après moi au Québec on est dans un régime sans faute.
Oui.
D'après ce qu'a décrit, elle est sur la voie. Sur une voie publique, et normalement, la Société de l'assurance automobile devrait défrayer les coûts de soins de l'animal.
Et donc,
parce qu'on n'est pas... la SAC, jadis, là, ça fait longtemps, on a rarement affaire avec eux autres, mais ils nous ont... Lorsque quelqu'un a un accident d'automobile et devient aveugle, à un moment donné, il défrayait les coûts du chien guide.
Mm-hmm.
Mais là, depuis plusieurs années, ils font plus ça. Mais là, on n'est pas dans un cas de quelqu'un qui devient handicapé là, à la suite d'un accident automobile. On est dans, c'est une personne handicapée qui utilise un chien d'assistance et son chien, il a un droit fondamental de par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
Mm-hmm.
Et matière aussi, là, j'espère que la SAC vont comprendre ça puis qu'ils vont... ils vont aider Mme Corée là, dans ses démarches-là.
Et donc,
mais
la Fondation Mira...
droit de personne.
Là. Fondation Mira soutient complètement les demandes, les revendications d'Ingrid Carrie.
Oui. C'est la démarche la
parce
plus
ça coûte
logique
cher,
à faire. Là, nous autres aussi, on va l'aider là, parce qu'on est un organisme d'aide. Là, on
oui.
veut pas... Madame, elle se promène pas sur la fortune. Là.
Oui, évidemment, oui.
Et... c'est dans ce sens-là, on va supporter Ingrid, c'est une de nos utilisatrices.
Oui, puis il faut rappeler aux gens que le processus est très long pour entraîner, trouver un chien. Ce sont des chiens très précieux.
Oui. On peut estimer le coût du chien là, que nous autres, à Mira, ça nous a coûté. C'est un chien d'assistance. Ça représente un élevage très spécialisé. Ça représente 5 mois d'entraînement avec, avec un entraîneur. Ingrid est venue en hébergement chez nous pendant 21 jours pour apprendre à utiliser son animal. On a fait des suivis à domicile pour que l'animal effectue son travail de façon confortable. Puis... et là arrive un accident bête comme ça, là, puis ça, pour nous autres, c'est un coût qui peut être estimé là, à 32 000 $ facile. Là.
Ouais, c'est très important. Pour que les gens comprennent bien, parce qu'on entend de plus en plus chiens d'assistance, la plupart du temps, ils sont pourvus par Mira, mais il y a aussi d'autres fondations. Vous êtes la principale fondation qui les pourvoyait. Les chiens d'assistance, les chiens guides, les chiens d'apprentissage, est-ce que vous pouvez démêler tout ça pour que les gens comprennent? Là, parce
oui,
que
oui,
ça le, pourrait le, être d'autres situations que celle-là.
C'est ça, c'est facile à démêler. Là, en règle générale, il y a les chiots de Mira, c'est les gens du Québec qui font du bénévolat pour nous, viennent chercher nos chiots en élevage pour les socialiser.
Mm-hmm.
Mais pour les personnes handicapées, c'est des programmes très précis où on attribue des chiens, là, comme je vous l'expliquais, Ingrid, pour un chien d'assistance pour personnes qui présentent un problème moteur, c'est 21 jours de résidence chez nous.
Mm-hmm.
On attribue des chiens guides, ça c'est plus connu dans l'histoire du Québec, on attribue des chiens d'assistance personnes à mobilité restreinte et on attribue aussi depuis 2003 des chiens d'assistance pour des familles dont les enfants vont présenter un trouble de l'autisme et d'autres troubles associés. Là.
Mm-hmm. Il y a déjà eu une campagne que vous avez menée, notamment avec Ex-Éco, autour de 2010, pour qu'il y ait des compensations pour aider, pour alimenter, pour s'occuper des chiens d'assistance. Parce qu'on le faisait pour les chiens guides, mais on le faisait pas pour les chiens d'assistance. Est-ce que cette campagne-là, qui a été victorieuse, hein, le gouvernement a fini par accepter d'être ben, victorieuse en partie, là?
Ouais,
vous ne trouvez pas que c'est génial, hein?
Calculé, moi, dans mon parcours de vie, ça m'a pris à peu près 15 ans à faire débloquer ce dossier-là.
OK, j'ai dit...
Il faut être patient. Des ministres et des sous-ministres, j'en ai rencontré plusieurs.
OK, oui.
Puis ils changent, puis dépendamment s'ils aiment les chiens ou s'ils n'aiment pas les chiens. Mais en 2010, on a été chanceux.
Okay.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a finalement compris qu'il n'a pas exercé de la discrimination à l'égard des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Comme le programme pour... C'est un programme de frais d'allocation et d'entretien du chien
ouais.
qui existe depuis 1980 pour les personnes handicapées de la vue. Et on a demandé à l'époque, moi j'avais commencé depuis longtemps, mais Execour est venu aider dans ce dossier-là pour que les personnes handicapées physiques puissent avoir les mêmes allocations que les personnes handicapées de la vue.
Bon. Écoutez, Ingrid, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vous aider? Comment on peut faire valoir vos besoins, les soins qui doivent être défrayés pour votre chienne d'assistance Tia?
Moi, j'ai fait une pétition. Nous avons fait une pétition pour demander au ministre des Transports, M. Laurent Lessard, pour modifier la loi pour que les chiens de service, tout type chien de service, que quand il arrive un accident, qu'on soit indemnisé.
Mm-hmm.
Parce que des fois, comme là, bon, je suis chanceuse parce que j'ai eu de l'aide, mais il y en a, là. Tu sais, il y a des personnes, là, qui n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de soutien de leur famille, ils n'ont pas de soutien de d'autres mondes. Fait que, ils sont seuls, là.
Bien sûr.
Fait que.
Puis vous avez eu tout un support hein, de gens. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, évidemment avec un passage à l'émission de Denis Lévesque. Mais donc, il est possible de signer encore cette pétition-là à l'endroit
oui,
du ministre
oui,
Lessard?
Oui, je peux vous l'envoyer.
OK, on va l'ajouter. On va l'ajouter sur la page de l'émission. Et donc, temporairement, peut-être pour vous aider à compenser les coûts, mais aussi peut-être dans cette bataille, vous faites aussi une campagne de sociofinancement. Je vais dire...
Absolument.
Oui, pardon?
Comment?
Oui, comment vous... Qu'est-ce que vous avez dit?
Pour le moment, elle est encore en vigueur.
OK. Donc, c'est possible d'aller retrouver ça à gofundme.com/chien-mira-deli-de-fuite.
Oui.
Donc, on le dit vite, gofundme.com/chien-mira-deli-de-fuite avec des tirets partout. Et quelles seraient les prochaines étapes? Brièvement, en quelques secondes, chère Ingrid et Monsieur Champagne.
Ben, en tout cas, oui, vas-y, Ingrid.
Moi, ce serait ben, continuer ma déclaration d'études à la Société de l'assurance d'automobile du Québec.
Bien sûr.
Continuer l'évolution.
Pour qu'elle prenne ses responsabilités, au fond.
Pardon?
Pour qu'elle prenne ses responsabilités.
Oui, il faut absolument que la société prenne ses responsabilités pour que les chiens de service... autrement dit, que les chiens de service soient respectés et les personnes handicapées soient respectées en tant que...
Que personnes à part entière et qui ont les mêmes droits que les autres sur la route.
Exactement.
Voilà.
Exactement,
on n'aura malheureusement pas plus de temps. Merci beaucoup, Ingrid Carré. On vous soutient le plus qu'on peut. Je vous assure qu'on mettra sur la page tout ce qu'il faut pour que les gens manifestent, continuent de manifester leur appui. Alors, merci beaucoup, Ingrid Carré.
Merci.
Merci, Noël Champagne, psychologue, mais aussi, j'oserais dire, promoteur des droits des personnes qui ont des chiens d'assistance et
oui,
des chiens guides.
Finalement, juste dire aux différents ministères qui se conforment à la Charte québécoise des droits et libertés, c'est la moindre des choses à l'intérieur
voilà.
de chacun des ministères.
Donc, c'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Noël Champagne, de la Fondation Mira. Et donc, on continue de vous appuyer. Vous retrouverez sur notre page tout ce qu'il faut pour continuer de le faire.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Après des milles sous la pluie, après des jours sous la nuit, avant de ne plus voir le nord. Après autant d'aujourd'hui, et après tant de nuages gris, avant que mon temps ne prenne le bord. Je prends la sens un qui va plus près du soleil, près de la chaleur aussi. Plus rien n'est elle sous la pluie, après des jours sous la nuit, avant de ne plus voir le nord. Après autant d'aujourd'hui, après tant de nuages gris, avant que mon temps ne prenne le bord. Je prends l'ascenseur qui va plus près du soleil.
C'était 7 jours en mai avec la pièce Vue d'ici. Vous avez reconnu, entre autres, l'incroyable Marat Tremblay. Enfin, moi, ça me fait grand plaisir de l'entendre. Et ça me fait encore plus grand plaisir d'entendre qu'il y a des initiatives qui fonctionnent en matière de logement. Et avant de passer la parole à notre invité, je citerai d'abord la présidente de Défilogie qui s'appelle Lise Rainville, et elle dit... Toutes ces personnes ont exprimé leur désir de vivre en appartement et se sont engagées dans ce projet. Elles prennent des décisions par elles-mêmes tout en acceptant de l'aide pour arriver à les réaliser. Vivre en appartement, c'est plus qu'un toit, c'est prendre sa vie en main, être reconnu comme un individu à part entière, un citoyen. Alors, c'est le vœu, c'est ce qu'il y a derrière Défilogie qui offre un logement, notamment pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et avec nous, Catherine Derry, coordonnatrice de Défilogie Lanaudière. Bonjour, Madame Derry.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, qu'est-ce que c'est le projet Défilogie Lanaudière?
En fait, Défilogie Lanaudière, c'est des appartements supervisés pour les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mm-hmm. Donc, le projet a pris vraiment vie le 15 novembre 2015, où les 11 résidents ont pu aménager dans leur appartement, des appartements 3,5, où ils vivent vraiment de façon autonome, donc des appartements tout équipés, mais qui c'est quand même des gens qui nécessitent un certain soutien. Donc, il y a une équipe sur place d'intervenants, tout ça, qui sont là pour les soutenir dans les différentes tâches là, que ça implique de vivre en appartement.
Mm-hmm. Bien, de vivre en appartement, de vivre aussi, j'oserais dire, avec une communauté, parce qu'il y a beaucoup d'appartements, puis d'apporter un soutien communautaire aussi à ces personnes-là pour qu'elles puissent continuer d'être actives dans la vie. J'imagine que c'est ça dont on parle.
Oui, 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 exactement. Dans le fond, le logement, c'est comme un point central. Par contre, on touche là, à toutes les sphères de vie, là, autant au niveau des habiletés sociales, au niveau de différents apprentissages. Donc voilà.
Bon, j'avais envie que vous nous parliez de l'exemple d'Annick Génotte,
oui.
Qui est une de vos résidentes. Dites-nous,
oui.
racontez-nous un peu son histoire, donc.
En fait, bien, Annick, comme tous les autres, là... c'est une jeune qui vivait chez ses parents, qui avait le potentiel pour vivre en appartement. Par contre, qui n'avait pas des possibilités nécessairement là, près de chez elle. Et puis, qui nécessitait un certain soutien pour les tâches au quotidien. Des petits rappels par rapport au ménage, la planification des repas. Et qui avait besoin d'un milieu de vie aussi qui était sécuritaire. Donc, que ce soit pas n'importe qui puisse se promener dans les blocs appartements, tout ça. Donc, Annick a postulé pour venir ici parce qu'évidemment, la demande est très, très grande. Hein, le besoin est là, beaucoup plus grand que pour 11 personnes.
C'est ça, ça s'en prend d'autres, on le sait là, d'avance.
Oui, c'est ça exactement.
Puis d'ailleurs, d'où vient le financement pour Défilogie Lanaudière? Comment vous avez réussi à être soutenu?
Bien, il y a eu le programme Accès Logis via la Société d'habitation du Québec.
Ah oui?
Donc, les résidents ici bénéficient là, du programme de supplément au loyer, ce qui fait qu'ils ont accès à un loyer qui est abordable.
Mais ça a été construit aussi, c'est ça, avec Accès Logis, c'est des nouvelles unités qui ont été construites.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, on a aussi des subventions là, du CIS, du programme du PSOC, programme de soutien aux organismes communautaires, qui vient en aide là, pour une partie des services qu'on peut offrir. Mais c'est clair qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, hein, c'est comme dans n'importe quoi. Les besoins sont immenses, puis, puis les subventions bon, sont assez maigres, donc on essaie de faire avec ce qu'on a pour l'instant, puis de chercher là, via d'autres
moyens, exactement.
Oui, c'est ça, exactement.
Je suis obligé de rappeler là, qu'Accès Logis, c'est un programme qui a été en partie coupé là, par le gouvernement. On a préféré des subventions loyers, Accès Logis, ça permet, entre autres, ce programme-là, de financer une initiative comme la vôtre.
Oui, Oui, exactement. Oui.
Donc, on pourrait demander plus d'argent pour accès au logis, puis il y aurait peut-être plus de défis logis, c'est ça?
Oui, oui, ben oui, c'est ça, exactement.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre au Québec, par exemple?
Oui, ben il y en a qui sont là depuis quelques années, mais il y a vraiment une émergence de tout ça. Nous, on est dans le nord de la Neuvière, mais dans le sud, il y a l'organisme Un Pas de Deux qui sont en train de travailler très fort. Lui, il prévoit une première construction au printemps 2018.
Ah oui?
Donc, ça s'en vient, tout ça. Il y a aussi un groupe à Valleyfield qu'on a rencontré récemment qui, eux aussi, qui vont s'appeler des Philogies aussi, qui viennent d'avoir là, la confirmation comme de quoi il y aurait leurs unités également.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui va se passer là, un peu dans toutes les régions. Je reçois des appels là, régulièrement de gens qui veulent s'informer, qui veulent savoir comment mettre ça sur pied.
Mm.
Puis, oui.
Assez heureux de voir que des Philogies poussent comme des champignons partout au Québec.
Oui, ben oui, ben oui, exactement.
Et si on veut en savoir plus, non seulement sur votre initiative, mais dans quelle région on va retrouver éventuellement de ces ressources résidentielles?
Oui, ben vous pouvez aller sur notre site internet desphilogieslamontière.org ou via notre page Facebook. On va parler beaucoup quand on voit des autres groupes qui font des choses, donc on les partage là-dessus. Puis il y a le document du rêve à la réalité qui a été réalisé par la KISS,
oui.
qui a été très inspirant en fait pour le mouvement ici de gens qui ont participé des Philogies. Ça les a vraiment inspirés d'avoir accès à ça. Donc c'est un document que vous pouvez avoir accès via l'Association du Québec pour l'intégration sociale.
Bien. Puis il y a aussi Mon choix, mon toit, si je ne m'abuse, de l'information sur comment développer une ressource résidentielle.
Oui, Entre toi et moi, en fait, c'est des courts-métrages qui ont été faits sur les habitations sociales et communautaires.
Okay.
Donc, il y a plusieurs capsules vidéo. Des Philogies, il y en a une. Oui, effectivement, vous pouvez trouver de l'information sur ce site-là.
OK. Donc, ça s'entend. Donc, pour nos amis aveugles, ça s'entend aussi. Pour tout le monde qui souhaite en savoir plus, ça s'entend. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Catherine Derry. Rappelons que vous êtes coordonnatrice de Défilogie Lanaudière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Pour avoir plus d'informations sur les intervenantes et organismes qui viennent ici, visitez la page de l'émission Accès libre. Elle est repérable sur la page canalm.vusezvoix.com. Aujourd'hui est avec nous Rachel Thiboutot de cette semaine pour les personnes en situation de handicap au Nouveau-Brunswick, Aube Savard et Laurent Trépanier-Capistran, nos chroniqueurs. C'est essentiel à l'émission. On n'oublie pas Ingrid Carré qui souhaite forcer la SAC à la dédommager afin qu'elle ait accès à son chien d'assistance et la Fondation Mira aussi. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, cette équipe est géniale. Christiane Campagna, Maurice et Jean-Sébastien Laliberté. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine en espérant que d'ici là, on va faire un véritable accès libre. Petite information spéciale, la semaine prochaine, on se retrouve peut-être en rediffusion, mais dans deux semaines, on sera là. À bientôt!